France Info. 20h, 21h, France Info, les informés, Olivier Delagarde.
Bonsoir à tous. C'est une question que je me suis souvent posée. Pourquoi ? Comment se fait-il que des personnes saines de corps et d'esprit, très occupées par d'importantes responsabilités professionnelles, comment se fait-il qu'elles acceptent aussi facilement de tout abandonner pour se précipiter dans le studio désinformé ? Pour l'argent ? Assurément pas. Pour la gloire, ça reste à voir. Pour la bonne tête du journaliste, ne rêvons pas. Non, j'ai eu la révélation cet après-midi, si les informés aiment tant les informés, c'est parce que le studio est climatisé. C'est donc frais et dispo qu'ils ont pris place dans notre studio. Bonsoir Valérie Locable.
Bonsoir Olivier Delagarde, moi je suis là parce que je vous aime Olivier.
Je ne vous fais pas dire, enfin c'est aussi, je vous fais dire d'ailleurs. Vous êtes directrice de l'agence, directrice générale, j'en perds mon latin, de l'agence Hill-Knowlton Paris. Sarah Durieux, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Directrice exécutive de la plateforme de pétition Change.org France. Arnaud Clerc, bonsoir.
Bonsoir Olivier Delagarde.
Avocat au barreau de Paris, et puis Jérôme Ripoul, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Co-dirigeant du cabinet de conseil Confluence et de l'Institut Opinion Valley. Allez, c'est parti pour une heure de débat. Et je n'ai pas de conseil à vous donner, mais hydratez-vous bien. Le projet de loi bioéthique a été présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. Un texte assez touffu finalement de 32 articles et une mesure qui fait débat, l'ouverture de la procréation médicalement assistée, la fameuse PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Alors il y a évidemment beaucoup d'aspects différents dans ce texte. Je vais commencer peut-être par vous demander si vous êtes... je ne vais pas commencer par vous demander si vous êtes pour ou contre, on peut y venir hein, si vous le souhaitez, mais est-ce que ce texte vous apparaît nécessaire politiquement pour Emmanuel Macron, Valérie Lecaule?
Il est nécessaire à partir du moment où c'était une de ses promesses de campagne et qu'Emmanuel Macron a dit qu'il tiendrait toutes ses promesses de campagne. Donc en cela, il était nécessaire. Après, pendant le débat sur le mariage pour tous, vous vous souvenez qu'on avait déjà parlé de la PMA et que c'était déjà un sujet qui était d'actualité, qui avait été refermé à l'époque pour des raisons politiques, justement pour pas en rajouter une louche. Et c'est vrai que parmi l'équilibre politique d'Emmanuel Macron, la PMA peut faire pencher un petit peu la balance sur la gauche, si tant est que ce soit de gauche. La seule chose qui m'inquiète...
Sociétalement, oui,
c'est on se dit que c'est un petit peu de gauche.
Oui. Certains disent que c'est la première mesure de gauche d'Emmanuel Macron après plein de mesures de droite
économiquement. Oui, mais c'est sans doute plus compliqué que ça, parce qu'aujourd'hui, j'ai lu que Sylvie Agacinski, qu'on ne peut pas soupçonner d'être de droite,
était contre. Elle est contre la PMA depuis longtemps.
Il y a des gens de droite qui sont pour. Donc, c'est un débat qui transcende les partis politiques et qui implique beaucoup de choses, et beaucoup de choses de l'ordre de l'intime. D'ailleurs, c'est pour ça que les Républicains ne donneront pas de consigne de vote au Parlement. Parce qu'ils considèrent que c'est un sujet individuel. Je voudrais juste dire que, après cette grande crise des Gilets jaunes, j'espère juste qu'à la rentrée, quand ce texte va être présenté au Parlement, ça ne va pas provoquer à nouveau une fracture de la société française, parce que franchement, on n'en a pas besoin.
Ça voilà, c'est juste ça.
Oui, non, j'acquiesce. D'ailleurs, je suis assez étonnée de voir la réaction pour l'instant de justement ces milieux qui s'étaient opposés au mariage pour tous. Aujourd'hui, je regardais un petit peu ce qui se passait sur les réseaux sociaux. Donc, bien sûr, il y a les personnes qui prennent la parole habituellement sur ces sujets, mais qui sont plutôt politiques. Après, au niveau du grand public, je pense que soit l'information n'a pas encore fait le chemin, soit peut-être éventuellement qu'il n'y aura pas une telle fracture tel qu'on l'imagine. Un sondage BVA disait qu'il y avait 60% des Français qui étaient favorables.
Et soit il fait très chaud et soit c'est l'été et soit tout le monde est en vacances.
Après, quand on regarde la sociologie des gens qui sont contre, ça reste des gens qui sont plutôt plus âgés, qui sont plutôt de droite, qui sont plutôt des personnes avec des revenus plutôt élevés. Donc on peut dire que c'est une partie de la population qui est peut-être moins représentative de celle qui se mobilise actuellement sur le climat, sur les gilets jaunes, etc.
Il y a un timing politique quand même. Hein. On est le 24 juillet, c'est le dernier conseil des ministres de l'année et c'est ce conseil des ministres qu'on choisit pour annoncer cette mesure.
Ouais, clairement, et puis il y a d'autres choses qui passent aussi à ce moment-là parce qu'elles sont plus facilement, on peut faire passer, on en parlera tout à l'heure, j'imagine, de la suppression de postes de fonctionnaires. Donc clairement, il y a une volonté de faire passer ça de manière la plus paisible possible. Après, le débat, il est aussi important parce qu'on parle d'égalité entre des couples homosexuels et des couples hétérosexuels et je pense que finalement, c'est important.
Alors, on va y venir. Mais sur le timing politique, Arnaud Clair.
Bon, sur le timing politique, effectivement, avant les vacances, c'est toujours bien de parler de ça, de poser une première pierre. Mais enfin, en même temps, la rentrée va vite arriver, puisque tout le monde revient des vacances du gouvernement le 28 août prochain. Donc c'est sûr que c'est très bien de poser la question aujourd'hui, mais les problèmes vont vite revenir. J'ai vu qu'il y avait une vingtaine d'associations là qui avaient appelé à des manifestations en octobre prochain, donc ça va commencer à s'organiser. Donc effectivement, le timing est bon, mais le mur va arriver assez rapidement. Effectivement, on va voir si ça réagit énormément ou peut-être les Français, on est aussi un peu assez des manifestations, veulent revenir au calme. Donc il faut voir aussi quels sont les modes de communication des opposants. Est-ce que c'est nécessairement aller bloquer la rue ou est-ce que c'est autre chose? Il y a peut-être aussi des innovations à faire de ce côté-là.
Vous parlez de cette organisation, ce mur qui avance. Ça veut dire que, à votre avis, un mouvement tel que celui qu'on a connu durant la manif pour tous peut se reproduire?
Non, je sais pas, mais en tout cas la question, effectivement, la rentrée va être importante et les modes de communication et de manifestation de ceux qui sont opposés va être intéressant. Est-ce que vraiment ils veulent, est-ce que aller à nouveau bloquer la rue? Non, ça ne va pas, avec les gilets jaunes, etc., leur donner non plus une très mauvaise image immédiatement.
On a quand même un bon test, on a vu les européennes. On a eu un candidat qui portait des idées qui étaient plutôt opposées à la PMA, et en tout cas à la GPA, ça c'est évident. Et on a vu le score qu'il a fait. Donc ça, c'est quand même de nature à démobiliser les troupes qui auraient pu être les plus...
François-Xavier Bellamy, pour ne pas le citer.
Et je pense que ça fait partie des sujets qui deviennent des sujets sociétaux et difficilement critiquables. C'est-à-dire que seuls les extrêmes peuvent se mobiliser là-dessus, et je pense que ça ne ralliera pas beaucoup d'opposition.
Vous pensez pas que la droite classique va donc enfourcher son cheval de bataille?
Non, ça a été dit, liberté de vote pour les Républicains, 20% à peu près des députés seraient pas hostiles à cette loi, donc je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça, il n'y aura pas une unanimité dans l'opposition.
Non, il n'y aura pas une unanimité, de toute façon, et tout à l'heure, nous serons en direct avec justement un député Les Républicains qui est favorable, qui votera ce texte, on lui expliquera, il nous expliquera pourquoi tout ça. 20h10, hydratez-vous bien, prenez pas un petit coup de chaud, on va laisser passer l'info avec Jules Dequisse qui vient de rentrer dans ce studio.
Le pic de chaleur atteindra son paroxysme demain en Île-de-France. Il risque de faire 42 degrés à Paris, par exemple, ce qui serait un record. La canicule va encore durer 2 à 3 jours avant le retour d'une forme de fraîcheur. 20 départements du nord du pays sont en vigilance rouge, 60 autres en alerte orange. Les transports d'Île-de-France recommandent aux Franciliens de limiter leurs déplacements dans la mesure du possible. Elle demande à la RATP et à la SNCF de mettre en place des mesures préventives pour assurer le bon fonctionnement des infrastructures qui sont mises à rude épreuve. Cela pourrait entraîner quelques retards. La SNCF invite les voyageurs à reporter leur trajet dans tous les départements en vigilance rouge. Attendu depuis des années par les associations militant pour les droits des homosexuels, l'extension de la PMA à toutes les femmes est désormais sur les rails. Le projet de loi bioéthique qui la comprend a été présenté ce matin au Conseil des ministres. Son examen à l'Assemblée débutera fin septembre. Les associations qui s'opposent à ce nouveau droit, comme la Manif pour tous, annoncent une manifestation pour le début du mois d'octobre. Les bombardements russes se poursuivent inlassablement sur le nord-ouest de la Syrie. L'allié du régime de Bachar el-Assad pilonne des positions djihadistes dans la province d'Idleb, ce qui cause de nombreuses victimes civiles d'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme. 18 morts encore aujourd'hui, précise cette ONG. Et puis victoire italienne aujourd'hui sur le Tour de France. Matteo Trentin s'impose en solitaire à Gap. Il s'est extirpé dans le final de l'échappée du jour. Demain, le peloton attaque les Alpes. Julien Alaphilippe devra défendre son maillot jaune. Pas de changement aujourd'hui au classement général.
France Info. 20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde.
Et premier débat des informés ce soir, l'extension de la PMA à toutes les femmes. Et justement, ce sont trois femmes qui portent le projet. La ministre de la Santé Agnès Buzyn, la ministre de la Justice Nicole Belloubet et la ministre de la Recherche Frédérique Vidal. Trois femmes pour blinder médiatiquement la défense de ce projet, Valérie Lecable.
Bah pour prendre en compte tous les points de vue aussi, c'est-à-dire le point de vue du médecin, le point de vue de la justice, etc. Que tous les points de vue pour éviter les écueils, etc. Après, sur ce qu'on était en train de se dire avant l'interruption, il faut regarder que dans ce projet de loi, il y a quand même des risques, me semble-t-il. puisque après la PMA se pose déjà le sujet de la GPA,
et
le
sujet
de la GPA, on le sait.
La gestation pour autrui, les mères porteuses, quoi.
Voilà, exactement. Et on sait que ce sujet peut être clivant. Donc, il y a d'autres choses aussi. Il y a la congélation des ovocytes. Il y a le fait que lors du don du sperme, la personne devra donner son identité pour que l'enfant puisse aller le voir un jour en lui disant, t'es mon père. Ok, ça pose quand même des questions à ceux qui vont donner.
C'est du profil.
Ouais, mais enfin bon,
il mesure.
Enfin, il donne son identité, en tout cas, voilà.
Donc tout ça est très compliqué.
Donc il y a quand même.
Parce que vous n'allez pas nous spoiler la totalité du débat.
Il y a aussi l'histoire de la congélation des ovocytes, qui est un sujet aussi. C'est-à-dire toute femme à partir de 30 ans jusqu'à 37 ans, je crois, pourra faire congeler ses ovocytes. Donc peut-être que il y a quand même des sujets de société assez fondamentaux qui sont posés sur la filiation. Etc.
Ah mais c'est pas peut-être, c'est absolument certain.
Et donc je ne sais pas si, autant la PMA je pense effectivement est passée dans les esprits, parce que le fait qu'une femme ait le droit d'avoir un enfant c'est juste tellement naturel et c'est tellement, il n'y a rien à dire, qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, toute femme a le droit d'avoir des enfants, quelle que soit sa situation et quelle que soit, c'est naturel pour une femme d'avoir des enfants. Mais après toutes les questions qui peuvent être posées derrière, je ne sais pas si ça va passer comme une lettre à la poste. Alors, ou pas, je pense qu'on verra.
Autre sujet, j'en prends un que vous n'avez pas évoqué, Valérie Le Cap, vous
m'en avez laissé. C'est très bien, comme ça vous rajouterez.
Et je vais m'adresser à l'avocat de la bande. Est-ce qu'on n'est pas dans un cadre où l'on fait, le fait de devenir parent devient un droit? Jusque-là, on parlait beaucoup du droit de l'enfant, du droit d'avoir un père et une mère. On a l'impression que tout ça s'est gommé et qu'aujourd'hui, le droit qui demeure, c'est le droit de chaque individu d'être parent.
Ouais, c'est sûr que là, on passait d'une loi qui était une loi médicalisée, c'est-à-dire vous pouvez pas avoir d'enfant, la technique va vous aider à en avoir un, à une loi sociétale, c'est vous voulez avoir un enfant même si vous pouvez en avoir un autrement, soit parce que vous êtes une mère célibataire, soit parce que vous êtes un couple lesbien, et la loi vous permet de les avoir. Donc ça, c'est le premier point, c'est qu'on passe du médical au sociétal, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas de problème de santé peuvent avoir des enfants par le biais de ces techniques-là. Et après, effectivement, il y a la question de le droit à l'enfant et comment on régit tout cela. C'est-à-dire que, par exemple, il y a toute la question qui a été... Parce que là aussi, politiquement, ils ont été assez précautionneux dans, au gouvernement, parce qu'ils sont passés par
le Conseil... Ils marchent sur des œufs.
Ils sont passés par le Conseil d'État avant pour bien se faire valider tout ce qu'ils faisaient, etc.
Il y aura une commission de 70 députés qui va se réunir dès la rentrée.
On avance quand même très précautieusement là-dessus. Et par exemple, il y a toute la question... aujourd'hui, vous êtes un couple hétérosexuel, vous avez un enfant... ça ne ressortira pas de l'acte de naissance de l'enfant. Demain, vous êtes un couple de lesbiennes, sur l'acte de naissance de l'enfant, il y aura le fait que c'est un enfant qui a été qui est né par PMA. Toutes ces questions-là.
Donc voilà, soit dit en passant, ça va faire la fortune des avocats, ces affaires.
Hein. Oh là là. Non mais on verra. Mais ce que je veux dire par là, voilà, il y a beaucoup de questions effectivement, même sur le droit de l'enfant, à savoir effectivement il y a la question du donneur, etc. Mais même au fait qu'il sache officiellement, mais c'est toute la question de la vraisemblance biologique, c'est-à-dire que de toute façon, si vous avez un père et une mère, vous êtes né. Je n'ai pas à vous dire et je n'ai pas à dévoiler que vous êtes né d'une PMA. Si vous avez deux mères, je peux dévoiler que vous êtes né d'une PMA, donc je peux l'écrire sur un acte officiel. Ce genre de question, c'est quand même assez important aussi.
Sarah Durieux, c'est quelque chose qu'on s'en aperçoit, hein, qui va bouleverser beaucoup de pans de notre société.
En fait, notre société, elle a déjà évolué. La question, c'est comment on réglemente ou comment on accompagne les gens qui font déjà
ça. Pourquoi vous dites qu'elle a déjà évolué ?
Parce que les femmes aujourd'hui, les femmes homosexuelles, les couples lesbiens vont à l'étranger quand vraiment elles veulent avoir un enfant. Parce que je rappelle que cette loi, enfin, tout ça, c'est légal alors, en Espagne.
Vous allez dire que
c'est légal au
Portugal. Je vous cherche, mais est-ce que ça veut dire que la société a évolué si des gens contournent finalement la loi ?
La question, c'est est-ce qu'on veut protéger ? On parle de la protection des enfants. Aujourd'hui, les enfants qui sont nés comme ça de procréation médicale, médicalement assisté à l'étranger, n'ont qu'un parent qui est reconnu. Le second parent doit faire des démarches d'adoption, qui malheureusement, parce qu'on vit encore dans une société qui a du mal à accepter le concept de couple homosexuel, va pas forcément faciliter l'adoption. Donc si on parle de protection des enfants, justement, peut-être que cette loi, elle permet de protéger des enfants qui ont deux parents qui seront des parents officiellement reconnus via la PMA comme ces deux parents.
Mais qui peuvent ne plus avoir de père.
Et peut-être que c'est OK. Je ne sais pas. Hein. Moi, j'ai pas un avis sur la question. Mais
on pose juste les questions.
La parentalité n'est pas uniquement biologique. La parentalité, elle se construit. On le voit.
Mais
il y a beaucoup
est un
de
peu
couples.
Biologique aussi,
il y a beaucoup
même.
De couples reconstitués.
Ça veut dire que la GPA arrive tout de suite. Oui. Parce que ce qu'on dit là, c'est puisque la PMA se fait, puisque la PMA se fait ailleurs, c'est normal de la faire ici. Or, la GPA se fait aussi ailleurs. Et aujourd'hui, effectivement, nous, dans nos cabinets d'avocats, on voit des couples qui se sont fait faire, entre guillemets, un enfant par une mère porteuse à l'étranger, et ils reviennent, et il y a un enfant. Et qu'est-ce qu'on fait de cet enfant qui est difficile à reconnaître?
Vous avez ce genre de client dans vos cabinets aujourd'hui?
Oui.
Ouais. Et au nom de l'égalité entre les femmes et les hommes, pourquoi les femmes auraient-elles droit, les femmes homosexuelles auraient-elles droit d'avoir un enfant et pas les hommes homosexuels? L'égalité des femmes et des hommes, c'est un sujet important.
Parce qu'on lui donne pas la parole. Non, pas du tout.
J'écoute avec intérêt mes camarades, bien au contraire. Mais ce que je voulais rajouter, c'est que le compte-rendu du Conseil des ministres, il est éclairant. Parce que, d'une part, il est spécieux, me semble-t-il, parce que je suis tout à fait d'accord avec vous.
Avec Sarah Durieux, ça se voit pas à la radio. C'est vrai.
Malheureusement, on n'est pas à la télé,
mais c'est très bien, la radio, c'est formidable.
Premièrement, le compte-rendu parle de révision de loi bioéthique, donc c'est normal, à la suite de sauts technologiques inédits, ce qui est absolument faux. C'est des sauts qui existent depuis 78, hein, les bébés éprouvettes, auxquels s'ajoutent des attentes sociétales fortes, ça c'est tout à fait exact. En tout cas, je trouve guidé, en tout cas, elles existent. Et le deuxième point qui me paraît important à noter, c'est qu'il est précisé pour la GPA que il n'y aura pas, suite à la non-marchandisation du corps humain, ça conduit à maintenir l'interdiction. Quand on dit maintenir l'interdiction, ça veut dire que l'interdiction peut être levée. Mmh. Et effectivement, je crois que derrière ça, ce qui peut-être effectivement susciter une incompréhension et peut-être conduire à des mouvements de protestation, c'est cette histoire.
Ce que vous nous dites, parce qu'on vous a un peu perdu, la Jean-Brie, oui. C'est que en fait, cette loi, elle entrouvre la possibilité de la gestation pour des mères porteuses.
Aujourd'hui, le texte dit. La PMA est autorisée, la GPA, l'interdiction est maintenue, mais quand on dit maintenir l'interdiction, c'est que demain on peut la lever. Voilà. Ce qui est le cas par ailleurs.
Enfin, et Sarah Durieux va nous dire que de toute façon la société a déjà changé, que tout ça.
Mais dans ce cas-là, je parle à votre place, vous avez vu, Sarah Durieux.
Non, mais dans ce cas-là, on débat pas d'une loi parce qu'on pense à ce que dans le futur une autre loi pourrait.
Quand même, il faut le prendre en compte.
Je pense qu'il faut le prendre en compte, mais il faut pas non plus agiter. Je pense que ça a été aussi un des problèmes sur la loi sur le mariage pour tous. C'était un peu, c'est la fin de notre société, nos fondements vont s'effondrer, etc. Je pense que s'il y a une volonté justement de non-marchandisation du corps. On est tout à fait capable de voter
mais
des lois et des réglementations.
La PMA. C'est objectivement fait, ça a précédé la PMA. Donc la PMA peut précéder la GPA.
Oui, mais alors dans ce cas-là, la question est-ce que la GPA est du même ordre que la question du mariage pour tous et la question de la Vous savez quoi, Sarah Durieux,
il faut vous hydrater. D'autant que ça tombe bien, il est 20h20. Jules de Kiss pour l'info.
Tout juste désigné Premier ministre britannique, Boris Johnson forme son gouvernement et il écarte Jeremy Hunt, qui était le chef de la diplomatie britannique. C'était aussi et surtout son adversaire pour obtenir ce poste et ils ont des divergences sur la manière de mener à bien le Brexit. Johnson promet qu'il interviendra le 31 octobre, même sans accord avec l'Union européenne. Jeremy Hunt est remplacé par Dominic Raab, qui a occupé le poste de ministre du Brexit sous Theresa May. Les enquêteurs vont utiliser un sonar pour tenter de retrouver le corps de Steve Canisso dans la Loire. Annonce du procureur de la République de Nantes ce soir. Ce jeune homme de 24 ans a disparu il y a plus d'un mois lors de la fête de la musique. On ne l'a pas revu depuis une opération de police sur les bords du fleuve. Elle était venue faire baisser le bruit. Une quinzaine de fêtards étaient tombés à l'eau. Les syndicats dénoncent un dernier coup fourré de la direction. La production de l'usine Ford de Blanquefort s'est définitivement arrêtée ce matin, une semaine avant la date prévue. Les salariés sont toujours écœurés par la fermeture du site qui produisait des boîtes de vitesse. Il employait 850 personnes. 20 départements en vigilance rouge, de l'Île-de-France à la frontière belge, 60 autres en orange. On battra demain des records de chaleur dans de nombreuses villes d'après Météo France, à Paris notamment, mais aussi à Reims, Nancy, où on atteindra les 41 degrés. C'est plus globalement l'Europe qui est plongée dans la torpeur de cette canicule. À Vienne, en Autriche, les diocèses lancent une campagne Église fraîche. Ils invitent les citadins à venir faire une pause fraîcheur et silence dans les lieux de culte où la température aussi généralement autour de 20 degrés.
France Info. 20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde.
Bonsoir. ce n'est pas un lieu de culte, c'est un lieu de débat, mais on s'y rafraîchit également, même si certains esprits s'échauffent. Les poupées russes, moi, c'est à ça que me fait penser cette loi d'extension de la PMA. On a l'impression que quand on soulève un dossier, en fait, il y en a un autre à l'intérieur, puis un autre à l'intérieur, puis un autre à l'intérieur. C'est un petit peu un dossier sans fond. On vous a pas entendu, Valérie Lecâble, sur cette possibilité. Est-ce que ce projet n'entr'ouvre pas la porte à la gestation pour autrui?
Si, je pense que oui. Si vous voulez, je suis d'accord avec le fait que la loi sur la PMA accompagne l'évolution de la société et je suis tout à fait d'accord sur le fait que de toute façon, on était dans une situation d'une grande hypocrisie puisque toutes les femmes qui le souhaitaient allaient bénéficier d'une PMA en Belgique le plus souvent ou dans d'autres pays limitrophes de la France. Donc, c'était un peu absurde, ça coûte cher, c'est réservé aux gens qui ont de l'argent, pas aux autres, donc c'était un peu injuste. Et c'est vrai que ça laissait l'enfant dans une espèce d'incertitude puisque l'enfant avait une mère et pas d'autres parents. Donc, on était dans une situation compliquée. Donc, le principe même de la PMA ne me choque pas du tout et je trouve que ça régularise...
De la PMA ou de la GPA ?
De la PMA. PMA, ouais. De la PMA. Mais moi, je suis contre la GPA. Très clairement, je suis contre la GPA. La GPA, ça consiste en quoi ? Ça consiste à louer le corps d'une femme pour contre-rémunération, lui faire porter.
Vous vous souvenez ce que disait Pierre Berger, hein, c'est pas plus scandaleux que de louer les bras d'un ouvrier.
Non mais après, Olivier, chacun trouve le scandale là où il veut. Moi, j'essaie de réfléchir moi-même et par rapport à mes valeurs et à mes références. Et je ne trouve pas qu'une femme doit porter l'enfant d'un homme. D'abord, je ne trouve pas qu'une femme doit abandonner un enfant à sa naissance. Ça doit être un déchirement absolument hallucinant. Moi-même, ayant eu 3 enfants, c'est quelque chose qui me semble juste impossible. Comment est-ce qu'une femme peut abandonner, enfin, donner un enfant qui vient de naître, c'est juste hallucinant.
Bah, le vent.
Non, oui, mais non, mais non, non. Il y a un moment, il faut dire non.
On a entendu votre nom.
Il faut dire non.
Sarah Durieux, qu'est-ce que vous en pensez?
Vous m'avez dit que j'en avais pas beaucoup parlé. Je termine sur ça.
Alors là, c'est la... Là, on m'a déjà fait des coups pendables dans cette émission. Donc, mais là, Valérie Lecâble, vous dépassez tout.
La GPA, non. Mounir Majoubi a demandé dès aujourd'hui la GPA. Non, on ne va pas rentrer là-dedans.
Et il trouble le débat.
Il n'aide pas le projet de loi.
On va laisser la parole à Sarah Durieux parce qu'elle s'est hydratée et elle a retrouvé ses esprits.
Non, je pense que vous avez raison. Enfin, je suis d'accord avec vous. Après, je pense que la question de la GPA, en effet, elle évoque plein d'autres questions. La question de la précarité, on sait, on le voit avec la prostitution, par exemple, c'est un bon exemple. Les femmes les plus précaires, vous rentrez dans la prostitution, on peut imaginer que des femmes plus précaires décident de louer leur ventre, etc. Donc, en effet, il faut faire très attention à ça. Après, je ne vois pas vraiment pourquoi on doit forcément lier la question de la PMA. Bon, je persiste et je signe.
Ouais. Parce qu'il y a l'égalité des hommes et des femmes.
Parce
qu'il y a
l'égalité des hommes et des femmes. Mais on n'en est pas à ce débat-là aujourd'hui. Et on avance pas à pas. Et je pense que c'est comme ça qu'on construit des législations qui sont à la fois justes et en rapport avec...
Mais quand vous dites qu'on n'avance pas à pas, c'est dangereux. C'est dangereux de dire qu'on n'avance pas à pas. Parce que ça veut dire que derrière la PMA, vous placez la GPA. Et ça, il y a des lignes rouges qui...
Ça, c'est vous qui le dites, et ce que la plupart des opposants au texte à la PMA disent.
Pas à pas. Donc, pas à pas, moi, je constate une chose. Je constate qu'on a eu le mariage pour tous. C'était une évolution qui était normale. Je n'aurais peut-être pas appelé mariage pour tous, mais en tout cas, ça a été voté et ça me paraît très bien. La PMA, je suis d'accord avec vous, il y a un débat hypocrite autour et il faut le régler. Mais la GPA... Surtout, il faut qu'il y ait quand même une éthique. Si on commence à dire la GPA et ce que dit Mounir Majoubi, c'est absolument improductif.
J'arrive vraiment pas à comprendre le lien entre le fait de voter la PMA. Je suis vraiment candide avec vous entre voter la PMA.
Je vais vous résumer la pensée ripoulesque parce qu'elle est un peu, elle est complexe. Ce qu'il dit, c'est que finalement, votre argument de dire il faut adopter la PMA parce que ça se fait déjà à l'étranger, on peut faire exactement la même chose avec la GPA parce que ça existe aux États-Unis et on va dire plutôt que l'hypocrisie d'aller aux États-Unis, faisons-le en France.
Merci d'être mon exemple.
Et pourquoi est-ce qu'on interdirait aux hommes qui ont envie d'avoir un enfant d'en avoir? Allons-y.
C'est effectivement une étape qu'on ne peut pas écarter.
Maître Clair, remettez de l'ordre dans ce débat.
On va prendre un peu de hauteur tout ça. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, notre société, là, on va être confronté, là, on parle d'éthique, etc. Or, avec les nouvelles technologies, pas seulement sur le plan de la santé, mais avec les données là, et autres, de toute façon, notre société va être confrontée à des révolutions qui vont nous obliger vis-à-vis de l'éthique et de nos valeurs à réfléchir à beaucoup de choses. Et ça va nous impacter dans les 10-15 prochaines années, je pense que tous les ans. Donc la GPA, ça va venir aussi. On l'apprendra pas. Mais toutes ces questions vont arriver. La gestion des données personnelles, etc. Et donc notre société est complètement impactée socialement par l'arrivée des nouvelles technologies qui chamboulent toutes les valeurs, toutes les conceptions d'éthique qui étaient là depuis une quarantaine d'années, qui n'avaient pas beaucoup bougé.
Bah, c'est le nouveau monde, c'est ça.
Voilà, c'est nouveau. Et en plus, ce qui se passe dans le monde entier. C'est-à-dire qu'on peut comparer, voilà, la GPA, notre problème, c'est pas de savoir si on doit faire la GPA ici, c'est de savoir comment fait-on alors qu'elle est ailleurs. Est-ce que le fait que ça soit ailleurs, ça doit nous faire changer, nous, de notre vision des choses, etc.
Toute l'Europe, effectivement, voilà, est gagnée par la PMA, des pays de l'Est, aux pays même très latins et catholiques, Portugal, Espagne. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de... Mais quelquefois, là, c'est vrai, la réflexion que vous faisiez, Maître Claire, c'est que, finalement, qu'est-ce qui s'ouvre à nous? Et ce qui s'ouvre à nous, je relisais il n'y a pas longtemps Le meilleur des mondes, c'est peut-être effectivement un jour une procréation ex-utéro. Et ça c'est inquiétant, quoi, parce que finalement les innovations technologiques, on est obligé de les prendre en compte.
Je veux dire, fait beaucoup rigoler Sarah Durieux qui est à côté de vous.
Mais Aldous Huxley a été très très précurseur et je pense qu'il ne fait plus rire du tout.
Mais je pense que être précautionneux sur les lois qu'on vote, c'est bien. Agiter des peurs, je pense que c'est pas forcément la chose à faire, surtout dans le contexte dans lequel on est. Je rappelle qu'il y a quand même des choses qui se passent aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui en France, les personnes homosexuelles ne peuvent pas donner leur sang. Ils doivent être abstinents pendant 4 mois.
Oui, mais ça joue de la peur
autour des personnes homosexuelles. Et je pense que ce débat sur la PMA,
et puis,
ça ouvre sur
passant,
la GPA,
la légalisation,
ça ouvre sur...
Ils peuvent être donneurs de sperme, hein, ça c'est depuis 2016,
voilà,
ce qui n'était pas le cas avant.
Ce que je pense, c'est que ça, il ne faut pas oublier qu'on est dans un contexte quand même où la question de l'homosexualité fait peur, on pense que ça va changer nos valeurs, l'équilibre de notre société, et ça c'est quelque chose qui a déjà divisé.
Les informer, ça va comme ça, parce que là, vous savez quoi, il est temps de s'hydrater, on va tous boire un grand verre d'eau, on va écouter la météo, c'est la canicule, ensuite il y aura l'info, et puis dans 5 petites minutes, on se retrouve pour la deuxième partie.
France Info Météo, avec le CIC, banque numéro 1 au podium de la relation client 2019. CIC, construisons dans un monde qui bouge.
Alors la météo, c'est avec Sébastien Léas.
Après une journée déjà extrêmement chaude aujourd'hui, la chaleur va encore monter d'un cran demain et des records historiques de température risquent de tomber l'après-midi. Personne n'est vraiment épargné par cette vague de chaleur. La vigilance canicule reste en cours avec 20 départements du nord de la France placés en vigilance rouge et 60 autres départements en vigilance orange. Demain après-midi, on attend 39 degrés à Caen, Lyon et Besançon, 40 degrés à Lille, Limoges, Agen et Strasbourg, 41 degrés à Reims, Metz et Orléans et même 42 degrés à Paris. Chaleur un peu plus modérée sur les plages de l'Ouest et de la Méditerranée, avec 33 degrés à Nantes, Nice et Cherbourg et 32 degrés à Montpellier et Ajaccio ainsi qu'à La Rochelle, alors qu'il fera 25 degrés à Brest. Côté ciel, hormis quelques grisailles sur la façade atlantique et un ciel un peu voilé sur les régions de l'ouest, la matinée sera largement ensoleillée. Le soleil va persister l'après-midi, même si le ciel sera un peu plus variable entre le centre-val de Loire, la Normandie et les Hauts-de-France avec quelques ondées. De nouvelles averses localement orageuses risquent de se développer sur les hauteurs des Pyrénées, des Alpes et du Massif central.
Voilà les prévisions de Sébastien Léas et puis le conseil. Hydratez-vous, je vous avais promis la météo, la voilà, l'info maintenant, il est 20h30.
France Info.
De quoi ouvrez l'info.
L'info avec Soisigbourg.
Et la France suffoque déjà, mais le pire est à venir. 20 départements du Nord et de l'Île-de-France placés en alerte rouge, canicule par Météo France. Le Premier ministre Édouard Philippe, en visite dans un EHPAD des Hauts-de-Seine, a rappelé qu'il faut faire très attention aux personnes isolées. Agnès Buzyn, quant à elle, a souligné que face à de telles températures, personne n'est à l'abri. Les sportifs aussi doivent faire particulièrement attention, explique Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé.
À ce niveau de température, une personne jeune en pleine santé peut faire un malaise grave en quelques minutes en plein soleil. On ne se rend pas compte quand on a 25 ans, on se dit bon, quelques minutes dehors, je vais avoir une activité un peu soutenue, je vais marcher vite, je vais courir. Et c'est vraiment très dangereux parce que la température corporelle monte très vite et que c'est là que peut survenir le malaise grave, l'accident cardiaque, voire le décès. À ce niveau de température, réduisez vos activités, reportez toute activité non indispensable et laissez passer cette vague qui heureusement sera courte, en adaptant vraiment profondément vos comportements dans les prochaines heures.
Voilà, et des records de température ont encore été battus aujourd'hui en France. 39,8 à Nancy, 39,3 degrés à Metz. Enfin, demain, il devrait faire 42 à Paris. Une vingtaine d'associations anti-PMA prévoient une manifestation le 6 octobre prochain à Paris. Selon elles, l'extension de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules conduira à la libéralisation de la GPA. Il n'y aura aucun risque aujourd'hui de la voir apparaître, a pourtant expliqué la ministre de la Santé Agnès Buzyn. Le projet de loi bioéthique était présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. Le Conseil d'État donne son feu vert à la création d'un parc éolien dans les Côtes d'Armor au large de Saint-Brieuc, en rejetant les recours de plusieurs associations environnementales. Les 62 éoliennes offshore seront livrées entre 2021 et 2023. Boeing, dans le rouge, l'avionneur américain a perdu près de 3 milliards de dollars ce trimestre après les deux accidents de son 737 MAX depuis cloué au sol. Le groupe a dû provisionner près de 6 milliards de dollars pour indemniser les compagnies aériennes. Boris Johnson, nouveau locataire du 10 Downing Street, investi officiellement par la reine Elisabeth II tout à l'heure et il a déjà choisi son nouveau chef de la diplomatie. Il s'agit de l'eurosceptique Dominic Raab, ministre du Brexit sous Theresa May, qui avait démissionné très rapidement pour marquer son opposition à la stratégie de la première ministre sortante et qu'il jugeait trop conciliante avec l'Union européenne. 6 morts dans un attentat contre la mairie de Mogadiscio en Somalie. Le maire a été blessé. La capitale somalienne est régulièrement la cible d'attaques de la part des militants islamistes Shebab affiliés à Al-Qaïda. Et puis la grande boucle, 17e étape entre le pont du Gard et Gap, aujourd'hui remportée en solitaire par l'Italien Matteo Trentin à la veille de l'entrée du peloton dans les Alpes. Le maillot jaune toujours sur les épaules du Français Julien Alaphilippe. A noter l'exclusion de Luc Rowe et Tony Martin, anciens champions du monde du contre-la-montre, après une altercation au pied du col de la Sentinelle. 20h33 sur France Info, l'heure de retrouver les informés avec Olivier Delagarde.
20h-21h, les informés, Olivier Delagarde.
Et toujours en compagnie ce soir de Valérie Lecable, directrice générale de l'agence Hilton Paris, Sarah Durieux, directrice exécutive de la plateforme de pétition Change.org France, Arnaud Clair, avocat au barreau de Paris, et puis Jérôme Ripoux, le co-dirigeant du cabinet de conseil Confluence et de l'Institut Opinion Valley. Alors ça y est, le Beaujo nouveau est arrivé. Beaujo, c'est ainsi effectivement que l'on surnomme Boris Johnson, nouveau Premier ministre britannique. Il a été adoubé par la reine cet après-midi. Il est arrivé donc au 10 Downing Street. Il a notamment promis de faire sortir le Royaume-Uni de l'Union européenne le 31 octobre, sans condition. C'était lors de son premier discours. Écoutez ce petit extrait.
We must now respect that decision and create a new partnership with our European friends.
Nous devons maintenant respecter cette décision et créer un nouveau partenariat avec nos amis européens, aussi chaleureux, aussi proche et aussi amical que possible. Je suis certain que nous pouvons arriver à un accord sans mettre en place aucun contrôle à la frontière irlandaise. Mais en même temps, il faut nous préparer à la possibilité que Bruxelles refuse de négocier plus avant et que nous soyons forcés de sortir sans accord. Et nos ports seront prêts, nos banques, nos usines, nos entreprises seront prêtes, les hôpitaux seront prêts et notre incroyable le secteur agroalimentaire sera prêt et attendra juste de continuer à faire du commerce, non seulement avec l'Europe, mais aussi avec le reste du monde.
Voilà, Boris Johnson, cet après-midi, Jérôme Ripoux, on peut croire ce que nous dit Boris Johnson ?
Ah ben, je crois que là, il est sur une ligne extrêmement dure. Il partage avec Donald Trump, outre une capillarité assez folle...
Ah non, pas de plaisanterie sur les cheveux,
C'est vrai, c'est tout à fait exact. Mais personne ne le voit. Les foucades et aussi cette espèce de fermeté à l'égard des partenaires européens qui est très très inquiétante. Alors tout ça c'est assez fragile hein, parce que Boris Johnson il est quand même il danse au-dessus du volcan. Il a quand même son ennemi ministre des Finances Philippe Hammond qui n'a rien à voir avec Benoît qui vient d'expliquer qu'il ferait tout pour éviter qu'on arrive à cette extrémité. Mais donc oui, moi je pense qu'il est sur une ligne dure et c'est très très mauvais, un très mauvais signe pour l'Europe.
Arnaud Clair.
Non voilà, les Anglais changent de négociateur. Après quelque chose de calme, on va avoir quelque chose avec beaucoup de posture, beaucoup d'agressivité, et donc ça va être intéressant. Mais effectivement, les derniers sondages en Angleterre montrent qu'il a 58% d'opinion défavorable. Il vient d'être élu par le parti des conservateurs. J'ai regardé, c'est 150 000 personnes qui ont voté pour lui.
0,4% du corps électoral. Voilà, ensuite, c'est la démocratie.
Mais en même temps, l'intérêt qu'il a, c'est que d'abord pour les médias, il va être intéressant parce que ça va être rigolo entre guillemets, ça va être un peu rock'n'roll. Mais l'Europe
va
devoir.
Ça c'est vrai. Nous, on n'est pas mécontents.
Mais il faut voir aussi les réactions déjà des responsables européens qui sont très calmes et très fermes. Mais je pense que la partie de négociation va être intéressante à analyser.
Sarah Durieux, comment vous voyez les choses?
Moi, c'est ce qui me surprend toujours, comme avec Trump, hein, c'est le manque d'humilité absolument totale de cette personne qui a été élue, comme vous le dites, avec ces 90 000 personnes qui l'ont élue, sur le corps électoral qui était amené à voter dans le cadre de cette désignation. Je ne sais pas si on peut appeler ça une élection. Et en fait, dans le même temps, du coup, j'appelais tout à l'heure...
C'est le système qui est comme ça. Hein, personne n'a contesté quand c'était Theresa May ou les autres. Donc
mais ce que je veux dire, c'est que le contexte a changé aussi. Ça fait des mois qu'il y a une négociation qui est en cours et arriver en disant moi en 3 mois je vais arriver à tout régler, vous allez voir on va sortir. Ça c'est quand même, j'appelais justement la directrice de change.org en Angleterre juste avant pour dire bah alors comment ça se passe, et elle me dit qu'en 24 heures il y a eu 200 000 signatures sur des pétitions justement qui demandent à ne pas faire de no deal. Donc je pense
200 000
que aussi,
c'est un petit peu plus que ce qu'a obtenu Boris Johnson,
c'est
ça,
un petit peu plus, c'est juste deux fois ce qu'il a obtenu. Donc je pense qu'il y a aussi l'opinion publique qui dit il faut respecter ce choix, etc. En effet il faut respecter ce choix. Après j'ai l'impression que avec ces mois et ces mois et ces mois d'attente, peut-être que l'opinion publique a légèrement changé en Angleterre et qu'il faudrait essayer de se reconnecter un peu à la réalité.
C'est-à-dire revoter, vous êtes en train de dire qu'il faut revoter pour ou contre la sortie du...
C'est ce que la plupart des gens
C'est
ce que la plupart des gens qui se mobilisent sur la plateforme demandent, un nouveau vote, ouais.
Oui, mais parce que c'est une plateforme d'engagement. Mais... Non, mais c'est toujours la même chose. On pense toujours, vu de France, que les Américains ne voulaient pas de Donald Trump ou que maintenant, les Anglais, ils ne veulent pas de Boris Johnson. On pense toujours ça parce qu'on ne se met jamais à leur place. Les Anglais, ça fait 3 ans...
En fait, il faudrait que ce soit les Français qui élisent les chefs d'État, les chefs de gouvernement,
mais oui,
les
mais
autres
on
pays.
Se trompe à chaque fois, plus... On se trompe à chaque fois parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe, en fait, chez les autres. Mais en fait, ce qui se passe, là, c'est que ça fait 3 ans que les Anglais sont en train de négocier ce Brexit, qu'ils en ont par-dessus la tête, que Theresa May n'a pas réussi et qu'elle n'a sur absolument rien. Et là, ce qui est extrêmement inquiétant, justement, c'est que les Anglais vont être dans une position politique extrêmement dure, puisque Boris Johnson a la même façon de faire que Donald Trump, c'est-à-dire de taper du poing sur la table, parce que finalement, c'est sa posture de négociation, oui, et que finalement, ils obtiennent pas mal ce qu'ils veulent avec cette posture-là.
Le Royaume-Uni, c'est pas les États-Unis, ils n'ont pas la même force de frappe.
Oui, mais le problème, c'est qu'en face, il va y avoir une nouvelle commission européenne qui va rentrer dans la négociation, donc on ne sait pas exactement encore de quelle façon ça va se passer, et je pense qu'il va y avoir une pression extrêmement forte. Il y a un rapprochement, ils se sont déjà téléphoné les deux, et il y a une visite qui est prévue entre Donald Trump
et
Washington et Londres. Les anglo-saxons,
ils sont... Le général de Gaulle l'avait bien
même,
dit.
Il y a même des gens qui disent qu'éventuellement, l'Angleterre pourra aller rejoindre l'accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis. Donc, on est quand même dans un bouleversement géopolitique avec des gens extrêmement déterminés, extrêmement proches, qui ont des méthodes politiques que nous ne comprenons pas, qui ne sont pas dans notre champ de vision. Mais nous, ça fait pas 3 ans qu'on est en train de nous dire on sort pas, machin. Et moi, je crois pas du tout que les Anglais ont envie de rester dans l'Europe. Je pense qu'ils ont globalement envie d'en sortir. Et que le risque aujourd'hui, c'est un Brexit dur, un no deal dur. Et un no deal dur, c'est quand même le saut dans l'inconnu pour tout le monde. Pour le Royaume-Uni, ça c'est sûr, mais pas que pour nous aussi.
C'est pas bon pour la France non plus.
Donc voilà. Donc je pense que comme on va avoir peur de ça parce que il est extrémiste et qu'il est dans cette espèce de...
On va se coucher devant.
J'en sais rien. On va voir ce qui va se passer.
Ça sera très compliqué.
Non, parce que Michel Barnier a eu raison de
Valérie
dire.
Valérie Lecaire, vous avez raison. Vous n'avez jamais la parole dans cette émission. Non. Et c'est pour cette raison que d'ailleurs je vais vous la reprendre. Pendant que vous vous hydratez, on va écouter Jules Lecaire pour l'info.
Le Premier ministre Édouard Philippe appelle chacun à faire très attention aux personnes isolées en cette canicule. Météo France place 20 départements en vigilance rouge pour demain, du Pas-de-Calais à Lyon, de la Seine-Maritime à la Marne. Il y en a 60 autres qui restent en orange. C'est presque tout le pays sauf la Bretagne, la Corse et le pourtour de la Méditerranée. À un tribunal international pour juger les djihadistes étrangers en Irak, la ministre de la Justice Nicole Belloubet préférerait un tribunal franco-irakien. Elle affirme sur France Info que les gouvernements des deux pays y travaillent. Des magistrats des deux pays pour juger les combattants français. Cela garantirait, selon elle, le droit à un procès équitable, l'accès à un avocat, à un interprète et la non-exécution de la peine de mort. La capitale somalienne est à nouveau frappée par le terrorisme. Une bombe a explosé dans la mairie de la capitale, Mogadiscio. Il y a 8 morts et des blessés, dont le maire de la ville. Elle était déjà frappée il y a 2 jours par une attaque à la voiture piégée, 17 morts et 28 blessés. Les islamistes Chebab avaient revendiqué cette attaque. Les flux de migrants entre la Turquie et la Grèce augmentent à nouveau. En un mois, plus de 3000 personnes ont réussi la traversée dangereuse vers les îles de Lesbos, Samos et Kos dans la mer Égée. Une hausse de 30% par rapport à la même période il y a un an. Et puis un Français en bronze au championnat du monde de natation en Corée du Sud. Troisième place dans la finale du 800 mètres nage libre pour David Aubry. À 22 ans, c'est sa première médaille internationale. C'est aussi la première pour la délégation tricolore dans cette compétition en bassin après plusieurs podiums en eau libre.
France Info.
20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde.
Et cette question dans les informés, Boris Johnson, le nouveau Premier ministre britannique, peut-il réussir à faire mieux que Theresa May, la Première ministre sortante? Alors on parle de hard Brexit, de Brexit dur à partir du 31 octobre. Est-ce que tout de même le Royaume-Uni n'aurait pas beaucoup plus à perdre que le reste de l'Europe, Sarah Durieux?
Il semble que c'est le cas, oui, en effet, en termes justement économiques, mais aussi par rapport à la relation à l'Irlande qui resterait quand même très très complexe, même si Boris Johnson...
La frontière irlandaise, ça c'est un problème.
Ça va être vraiment problématique. Après, je pense que l'Europe a à y perdre aussi, parce que même s'il arrive à faire ce Brexit et cette sortie dure, c'est ensuite quel précédent ça crée au niveau européen? Est-ce qu'il y a d'autres pays justement qui vont se dire, finalement, même en le faisant... un peu à la Boris Johnson.
Vous croyez que le Brexit anglais a donné des idées aux
je
autres
pense pas,
pays
ça... Jusqu'ici, non.
Jusque-là, non. Hein.
Jusqu'ici, non, justement. Mais s'il y arrive, pourquoi pas?
Moi, je pense que c'est l'inverse. C'est-à-dire que plus la situation est complexe, plus ça décourage les autres de faire la même chose. Parce que les gens, ils voient bien que l'issue est extrêmement complexe et que les risques sont considérables. Et le fait d'en arriver à élire Boris Johnson en Angleterre, qui aurait imaginé ça il y a 3 ans? Enfin, c'était une situation absolument imaginable. Et plus
Je vous rappelle que Donald Trump n'avait aucune chance de
devenir président des États-Unis. Je sais bien.
On l'a beaucoup dit, nous.
Je pense que ça peut, au contraire, dissuader les autres de suivre la même voie. C'est pas un exemple qu'on a envie de suivre, en tout cas.
C'est un bon test ce bras de fer entre la nouvelle commission et Boris Johnson, parce que très franchement, là, il ne faut pas lâcher. Si on lâche face à Johnson, c'est catastrophique. Ouais. Et de ce point de vue-là...
Justement, vous avez vu hier ce qui s'est passé quand même, la rencontre Ursula von der Leyen qui est venue à Paris solennellement pour premier voyage officiel, même s'il n'est pas encore tout à fait présidente, pour voir Emmanuel Macron. Il y avait de la volonté, visiblement, de montrer une forme.
Elle crée un axe. Aujourd'hui, l'Allemagne est un partenaire qui est en état de faiblesse et fragilisé. Physiquement, Angela Merkel ne va pas bien, elle est en fin de son mandat. Et donc, en clair...
N'allez pas nous enterrer, on dit à la Merkel.
Non, surtout pas, on l'aime beaucoup, on espère qu'elle aura longue vie. Mais cela étant, c'est vrai que la Commission ne doit pas lâcher. Si jamais Boris Johnson arrive à obtenir sans deal, ça sera très 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 mauvais. Et ce sera mauvais pour les Anglais d'ailleurs aussi.
Finalement, c'est peut-être une chance pour l'Europe, ce qui est en train d'arriver. C'est-à-dire qu'en fait, là, ils doivent soit ils disparaissent, soit ils font quelque chose, quoi.
Oui, c'est une chance pour l'Europe, mais c'est aussi, d'ailleurs, Boris Johnson, il vend ça comme étant une chance pour l'Angleterre. Il est dans son discours, il est hyper positif. Il dit, vous allez voir ce qu'on va faire, on va montrer au monde qu'on est extraordinaire, qu'on a plein de ressources. Il faut que l'Europe se dise, mais moi, je vais vous montrer que je suis extraordinaire aussi, que je suis soudé, parce que ça va être excessivement important. Et effectivement, c'est un très bon test, et si ça fonctionne. D'abord, ça freinera toute autre idée de départ d'autres États. Mais surtout, je pense qu'en plus, personnellement, pour les Français, on en a énormément besoin d'un bon deal, parce que la France est un des plus gros partenaires économiques de l'Angleterre et que si ça se passe pas bien, on va quand même être les premiers à être impactés, et que c'est aussi pour ça qu'on vient nous voir. C'est parce que ceux qui ont un intérêt à que ça se passe bien, mais qu'on tienne fortement, c'est aussi la France.
C'est vrai. Il y a une opportunité pour l'Europe, si elle se montre ferme, si elle arrive à faire front face à Boris Johnson, face à Donald Trump.
L'opportunité, Olivier, c'est que c'est quand même Emmanuel Macron qui a soufflé le nom de Ursula von der Leyen. Donc peut-être qu'on va enfin voir cet axe franco-allemand, via la présidente de la Commission européenne. Se mettre un peu plus en place que ça n'a été le cas jusqu'à maintenant. Et ça, éventuellement, ça peut être une opportunité. Après, vous avez raison, il y a deux attitudes possibles. Je veux dire, soit on reste très dur, mais là, le risque, c'est qu'on aille vraiment vers un no deal. Donc, c'est quand même un vrai risque. Et si on lâche, qu'est-ce qu'on peut lâcher, quoi?
Johnson, c'est compliqué. C'est Danny Trot, donc c'est comme il a retenu les leçons de Trump, qui est insaisissable, qui est imprévisible.
C'est ça, mais c'est son clone.
Et donc la crainte, elle est là.
Ouais, c'est ça.
On assiste quand même au niveau planétaire à un nouveau style de gouvernement des pays.
Une imprévisibilité qui est quand même
tout à fait stupéfiant. On a l'impression que le théâtre du monde est devenu une sorte de grand casino.
Absolument. Moi, je trouve que c'est très inquiétant. En fait, au-delà de la question du Brexit, c'est justement cette espèce de violence dans la relation politique qui est devenue une norme, en fait. Et finalement, on voit que même certains responsables politiques commencent à l'adopter au-delà des États-Unis ou de l'Angleterre. Je vois certains de nos responsables politiques, dans la manière dont ils parlent aujourd'hui de politique internationale, sont de plus en plus violents.
Pensez à qui, là, attendez.
Je n'ai pas en tête une personne en particulier, mais des personnes en particulier à droite et à l'extrême droite. Marine Le Pen utilise quand même, sur les questions justement européennes, un vocabulaire plutôt violent, combatif.
C'est pas nouveau, malheureusement.
C'est pas nouveau, mais c'est de pire en pire, et surtout, ça donne des idées à d'autres. Et on peut se poser
la question. Je vous conseille le livre de Henri Vernet sur la violence en politique, vous verrez que ça ne date pas d'aujourd'hui.
Et la violence aux politiques, ça donne aussi de la violence dans l'espace public en général. Et donc, puisqu'on a eu une jolie loi qui vient d'être justement votée à l'Assemblée sur la haine en ligne, qui pose plein de questions, on peut se poser la question aussi, c'est est-ce que c'est juste le problème des plateformes et des internautes, ou est-ce que c'est pas des mauvais exemples qu'on nous donne constamment aussi?
C'est pas seulement les plateformes, effectivement, c'est les gens qui sont derrière. Valérie Le Cap, c'est vrai qu'on assiste à une période de l'histoire tout à fait singulière.
Oui, mais ça a commencé avec l'élection de Donald Trump aux États-Unis, hein, c'est sûr. C'est-à-dire qu'on a une imprévisibilité dans les grandes décisions internationales qui est tout à fait nouvelle. Il y a quand même Poutine en Russie qui est quelqu'un aussi de particulier. On a eu Salvini en Italie. En Italie. On a à la tête ces fameuses... nouvelles, je ne sais plus le mot exact, qui sont des dictatures modernes.
Les démocratures,
merci beaucoup de m'avoir aidé à retrouver le mot que je ne retrouvais pas.
Bon camarade,
mais c'est gentil. Mais on est dans une relation internationale où tout est sable mouvant, on ne peut plus s'appuyer sur rien de solide, et donc tout est imprévisible, donc l'imprévisibilité est dangereuse.
Et ne parlons pas de l'ONU, et ne parlons pas de...
Pourquoi ne parlons pas de l'ONU?
Parce qu'on voit bien que le rôle de l'ONU, c'est quand même beaucoup des institutions internationales en général, l'UNESCO, l'ONU, sont plutôt en berne. On voit bien qu'il y a quand même des négociations directes entre les grands leaders non démocrates, Chine,
et quand
Poutine.
Et quand vous entendez aux infos, là, au flash tout à l'heure, que les Russes sont en train de bombarder le nord de la Syrie, alors contre le djihadisme peut-être, mais à continuer de faire encore des morts civiles et
oui,
des machins,
bon,
etc.
Ben, pas tout...
c'est...
Oui, mais l'ONU n'a pas...
Si, mais c'est un peu la même chose.
Arnaud Clair, relevez-moi ce débat, là, quand
vous êtes en train de... J'ai pas besoin de relever le débat, il est parfait comme ça. Non, surtout, moi, ce que je remarque, c'est que de toute façon, les rapports diplomatiques et les rapports de force internationaux, aujourd'hui, sont tous en train de changer. Donc, ils n'ont pas encore trouvé la manière de se parler et de trouver le bon discours. Pendant 50 ans, on était sur un discours établi. Le discours est en train de changer. Dernière petite chose, effectivement, Trump crie beaucoup, mais enfin, son problème avec la Chine, il ne l'a pas résolu. Son problème avec Corée du Nord, il ne l'a pas résolu. L'OTAN est toujours là, et donc, il crie beaucoup, mais dans le résultat concret, il a aussi des difficultés pour amener des choses. Des résultats, en fait.
Et parlons pas de l'Iran.
Là, on ne va pas en plus parler de l'Iran, parce que je vous ai préparé autre chose comme dernier sujet de débat. Avant ça, vous allez en avoir besoin, il faut bien vous hydrater. Il est pratiquement 20h50, Jules de Kiss pour l'info.
C'était un engagement du président de la République et il est tenu, se satisfait la ministre de la Santé. Le gouvernement compte bien autoriser la PMA pour toutes les femmes. La procréation médicalement assistée qui est comprise dans le projet de loi présenté ce matin en Conseil des ministres. L'exécutif espère une promulgation de cette loi début 2020, mais il devra faire avec une opposition qui se mobilise déjà. La Manif pour tous appelle à une manifestation début octobre. Pour la première fois, Météo France place 20 départements en vigilance rouge à la canicule. Des territoires compris entre le sud de l'Île-de-France et l'extrême nord du pays. 60 territoires restant orange. On attend demain le pic de chaleur de cet épisode caniculaire jusqu'à 42 degrés à Paris, 41 à Reims, 40 à Lille. En conséquence, la pollution à l'ozone reste élevée par endroits. La circulation différenciée reconduite demain à Paris et dans sa proche banlieue. Dans la métropole lilloise aussi, ainsi qu'à Lyon et Villeurbanne. Elle entre en vigueur à Strasbourg. Les véhicules avec une vignette critère au-dessus du 3 ne peuvent pas rouler. Plus d'un mois après la disparition de Steve Canisso à Nantes, les enquêteurs annoncent qu'ils vont utiliser un sonar pour tenter de retrouver son corps dans la Loire. Le jeune homme a disparu lors de la fête de la musique après une opération de police musclée sur les bords du fleuve. Le peloton du Tour de France perd deux coureurs. Pas d'abandon mais des exclusions pour Lucro et Tony Martin. Ils en sont venus aux mains lors de la 17e étape tout à l'heure. aujourd'hui, victoire de l'Italien Matteo Trentin à Gap. Demain, la route s'élève à nouveau. On attaque les Alpes avec les mythiques cols de l'Izoard et du Galibier.
France Info.
20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde.
Dernier sujet de débat ce soir, et je sais que ça va être dur, mais il va falloir résister à l'envie de faire des plaisanteries de garçon de bain. Je ne regarde personne en particulier, Jérôme Ripoux, mais nous allons nous intéresser à la disparition du monokini sur les plages. Oui, selon un sondage de l'IFOP, plus de 40% des femmes enlevaient le haut sur les plages dans les années 80. Elles sont moins de 20% aujourd'hui. Alors, comment expliquez-vous ce phénomène, justement, Jérôme Ripoux?
Alors d'abord, Olivier Delagarde, je préférais qu'on parle de topless, parce que le monokini, c'est quand même quelque chose, c'est un maillot...
Pas de franglais après avoir parlé de Boris Johnson.
Comment ça s'explique? Je trouve le sondage est extrêmement intéressant et inquiétant. Pourquoi? Parce qu'il a été demandé aux femmes pour quelles raisons elles ne faisaient plus du monokini. La réponse générale de toutes les femmes, quand on les interroge dans leur ensemble, c'est pour des raisons sanitaires. Donc elles disent le cancer du sein. Et quand on fait un focus sur les femmes de moins de 25 ans, alors là, c'est catastrophique, puisque les réponses qui arrivent en tête sont 59% éviter des regards déplacés, 51% la crainte d'une agression, et 41% des remarques négatives sur leur physique. Et là, je me dis qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui est extrêmement inquiétant. Parce que les données sanitaires qu'on connaît...
C'est une bonne raison. Et tous les dermatologues disent « Oh là là, attention au soleil !»
C'est pas un cancer du sein surtout, hein, c'est pas le dermatologue.
Oui, de la peau, tout à fait.
Mais on se dit « ça peut peut-être toucher le sein, on n'en sait rien ». ». Enfin, voilà, ça fait un peu peur.
Principe de précaution. Mais que là, des jeunes femmes, et moi je pense à ma fille, qui heureusement n'a pas ce comportement et je pense ferait ce qu'elle voudrait, mais je trouve ça très inquiétant, parce que c'est une privation de liberté, et après tout, qu'on se promène comme on veut sur la plage...
Mais ça, c'est le sentiment qu'elles ont, hein, ça ne veut pas dire que ça va arriver. Mais on a complètement changé d'époque, hein, tout ça... Pour moi, ça remonte à l'arrivée du sida, tout ça. C'est-à-dire que progressivement, les gens ont commencé à se protéger globalement, voilà, dans leur sexualité. Ils ont commencé à se protéger globalement, voilà. Et ça a renforcé la fidélité, ça a renforcé des comportements un petit peu différents, parce que les topless, le grand boom des topless, c'était les années 70, les années 80.
Je veux dire, ça me fait penser à l'année des méduses, je sais pas si vous vous souvenez,
c'était post-68-art, machin, etc. Et on a complètement changé de comportement. Après, c'est vrai que...
Je suis le seul féministe, en fait, dans cette assemblée.
Justement, puisqu'on va élever
le débat, donc moi je pose la question, juste pour comprendre, c'était un papier dans Le Parisien qui a été fait suite à une étude de l'IFOP sur commande d'un site qui s'appelle V-Healthy, qui en gros vend du régime. Je veux juste remettre le contexte. Ça, c'est la première chose.
Il y a un prétexte, puis c'est l'été, puis c'est la fin, c'est un sujet.
Et pourquoi ne pas parler de pourquoi les hommes préfèrent le slip au short de bain? Moi, c'est ça qui me choque, c'est qu'on est constamment en train de commenter comment les femmes
ne me cherchez pas, parce qu'on est capable de faire des débats aux informés.
En fait, le commentaire sur comment les femmes s'habillent, comment elles vont à la plage, si elles montent leur sein ou pas. Si je suis féministe, et j'ai envie de dire qu'elles fassent ce qu'elles veulent. Voilà. Si elles veulent montrer leur sein, qu'elles le fassent.
Ce qui est intéressant, c'est qu'elles montraient leur sein il y a 20 ans, et qu'elles ne le font plus aujourd'hui. Pourquoi?
Pourquoi on ne pose pas la question plutôt pourquoi on focus sans arrêt sur comment les femmes se comportent, et ensuite on dit c'est parce qu'elles ont peur. Pourquoi on ne se focalise pas plutôt sur pourquoi les hommes agressent?
Est-ce que vous trouvez que les hommes aujourd'hui ont des difficultés à se promener comme ils veulent sur une plage?
Mais justement, On remet toujours la responsabilité sur la femme en faisant ce genre d'études. Il faut que je raconte un truc aux auditeurs qui ne le voient pas,
mais Arnaud Clair est hilar en vous écoutant. Pourquoi, Pierre Maître?
Non, parce qu'effectivement, je ne pense pas que le débat soit là. Au départ, c'était plus un signe d'émancipation de la femme.
Voilà, c'est ça.
Or, on est passé d'un signe d'émancipation de la femme qui dit « écoutez, moi, c'est mon corps, je fais ce que je veux ». Et en gros, j'affronte toute personne qui n'est pas d'accord parce que c'est ma liberté. Et aujourd'hui, on a des femmes qui vous disent « Eh ben, cette liberté-là, je n'en veux plus. » Ben ouais. Et c'est ça qui est
grave. Mais c'est leur liberté, vous avez raison.
Non, mais tout à fait. Non, mais une époque, c'était je revendique ma liberté, et aujourd'hui, c'est ma liberté, c'est ma pudeur, et c'est de me cacher parce que j'ai peur des autres.
C'est pas ça ce qui est dit. Le sondage dit sur les moins de 25 ans, il dit
des autres.
Des agressions. Ouais. Non, mais on parle d'agression. Je veux dire, moi, je trouve ça très inquiétant.
Alors, il y a quelque chose qui est étonnant, et alors là, Sarah Durieux va être ravie, parce que ça concerne autant les hommes que les femmes. Parallèlement, le nudisme. Progresse.
Mais oui, bah bien sûr.
Mais ça, pourquoi bien sûr, le câble
oui, mais sur des plages,
parce qu'on est dans une société de liberté et que tous les gens qui aiment promener...
C'est paradoxal, d'un côté, on nous dit...
Moi, à l'endroit où je vais en vacances, il y en a de plus en plus, ça a complètement explosé.
Non, le vrai nudisme. Vous nous direz après où vous allez en vacances.
Non, mais en même temps, oui, mais en même temps, ça n'a... Enfin, moi, je suis d'accord, tout ça, c'est une liberté. Moi, je trouve que c'est devenu ringard, topless, voilà, c'est tout. Et pourquoi c'est devenu ringard, j'en sais rien.
C'est pas faux aussi,
mais
oui.
Soit on est dénudé, soit on a les deux. Mais voilà.
Vous êtes parfaitement conforme au sondage, finalement.
Bah voilà, c'est ça, c'est comme ça.
Mais sur le nudisme, je suis pas d'accord, parce que je trouve que le monokini, c'est un acte individuel. Le nudisme, c'est collectif. Oui. C'est je suis dans une plage, mais principalement.
Ah, si, parce que,
et donc,
parce qu'on n'est pas nudiste tout seul. Quoi,
et puisque je suis dans une communauté, je suis protégé par ma communauté. Le fait de faire du monokini, je vais seul sur une plage, il y a
c'est
ça la question. Et c'est là où c'était l'émancipation, et c'est de dire, ben moi, toute seule, je suis libre et je fais. Et c'est inquiétant.
Mais tout le monde le faisait, et plus personne ne le fait. En fait, il y a eu une espèce de rétropédalage où petit à petit, les femmes ont arrêté de le faire. Donc voilà, il y a une époque, vous voyez, toutes les femmes étaient seins nus sur les plages.
J'avais 15 ans.
Sarah Durieux, le nudisme, finalement, le naturisme, c'est l'égalité homme-femme. Là, tout le monde est pareil. Il n'y a plus de regard d'homme sur les femmes. Ou, en tout cas,
Oui, il y a une forme d'égalité. Mais c'est.
Mais je ne vous ai dit pas de plaisanterie de garçon de main.
Moi, je voulais juste revenir sur le sondage, parce qu'en fait, ce sondage, on s'inquiète en effet. Et je partagerai le constat avec vous. Je ne suis pas complètement sur le fait que c'est inquiétant que les femmes plus jeunes disent ça. La question, c'est est-ce que si on avait fait le même sondage il y a quelques années, elles n'auraient pas dit la même chose. Est-ce que peut-être des personnes qui sont plus jeunes ont une inquiétude plus forte d'être agressées, etc. Il ne faut pas tirer des conclusions sur ce sondage uniquement sur « Ah là là, c'est la fin, les femmes sont en danger aujourd'hui plus qu'avant ».
Je commente l'étude qui a été faite par IFOP et qu'on peut penser sérieuse. Maintenant, effectivement,
il faut... Ça n'a pas été fait par Opinion de Valais, quoi.
Il n'y a pas eu de comparatif sur ce que c'était avant.
Non, bien sûr.
Il y a une chose...
Allez, on va laisser le mot de la fin à Valérie Lecam, parce qu'elle a très peu parlé au cours de cette émission.
Il y a une chose qu'on peut remarquer, c'est que le pays qui résiste et qui continue à être topless, c'est l'Espagne. Et alors l'analyse, c'est de dire que c'est en réaction à je sais pas quoi, au franquisme, à machin, etc. À une époque où ils pouvaient pas le faire et où ça reste un signe d'émancipation de la femme. Alors allons voir si c'est vrai ou pas.
Vive l'Espagne.
Et ce sera notre mot de la fin. Merci à vous quatre, les informés. L'info, évidemment, continue sur France Info. Et n'oubliez pas de bien vous hydrater.